au 6-9, Morrissey.
Que la Morrissey se lève.
Voici Marc-André Pelletier.
À 7h05, bienvenue, que la Morrissey se lève jusqu'à 9h, édition spéciale du temps des fêtes encore, et peut-être que dans votre cas, ça se terminera aujourd'hui, votre temps des fêtes, et vous serez de retour au boulot lundi. Alors, si c'est le cas, profitez bien des derniers milles, et content de vous savoir. Rendez-vous ce matin, c'est mes derniers milles également dans cette émission, alors que Catherine sera de retour lundi.
À 5h30 et non 6h, elle.
À 5h30, hein? Effectivement.
Oh, le bonheur!
la demi-heure fait la différence, oui, au plan de vue du sommeil, notamment. Même si au final, on sauve peut-être 15 minutes parce qu'on se lève à peu près à la même heure, pareil. Mais c'est toujours ça de plus. Ceci étant dit, dans les actualités, Cogeco Nouvelle, Claude Boucher.
Écoute, je te parle encore à cette heure-ci de conditions routières. Pourquoi? Parce que la météo a un petit peu changé au cours de la dernière heure, ce qui fait que les conditions routières se sont légèrement améliorées parce que maintenant, Transport Québec nous parle majoritairement de routes partiellement enneigées pour la région de la Mauricie. Okay. Et c'est même dégagé et mouillé à la hauteur de Trois-Rivières sur la 40 et sur l'autoroute 55. Donc, c'est peut-être un petit peu plus de la pluie là, qui tombe sur la région depuis qu'on a commencé l'émission ici ce matin. Sinon, il y a l'actualité municipale qui s'invite dans les nouvelles ce matin. L'unité permanente anticorruption n'a pas desserré ses griffes sur la ville de Trois-Rivières. L'UPAC se penche toujours sur des contrats octroyés à des entreprises et des faveurs obtenues par des proches de l'administration de la ville dans le cadre du projet Trois-Rivières sur Saint-Laurent. C'est pas la première fois que l'UPAC tourne son attention vers Trois-Rivières. En 2013 et 2015, l'ancienne vérificatrice générale André Cossette avait apporté des dossiers à l'attention de l'unité. L'UPAC s'affairait actuellement à rencontrer des personnes ayant œuvré dans l'appareil municipal et dans certains cas, on rencontre des gens qui étaient là aussi loin qu'en 2002 lors de la fusion de la ville. Il y a l'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui touchera plus d'un quart de million de dollars en indemnité de départ après avoir annoncé sa démission la semaine dernière. C'est du moins ce qui avance et dénonce l'ancien greffier de la ville, Maître Gilles Poulin, dans une lettre ouverte publiée dans le Nouvelliste de ce matin. Avec ses calculs, M. Poulin en arrive à une somme de 256 000 $ qui pourrait être augmentée lorsqu'on va prendre en considération le salaire touché par M. Lévesque comme représentant de la ville au sein de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Maître Poulin stipule que l'ancien maire pourra toucher 123 000 $, une légère différence. Ouh.
Ouais, là, on trouve déjà ça cher, fait que ce serait le fun.
123 000 $ en allocation de départ et 133 000 $ comme allocation de transition. Ces montants sont calculés en fonction des années de service ou du nombre d'années à occuper la même fonction. La loi sur le traitement des élus mentionne qu'un élu qui démissionne pendant son mandat ne peut toucher ses allocations, sauf s'il démissionne pour des raisons sérieuses comme des problèmes de santé. Après un début de saison hâtif avec des accumulations de neige intéressantes en novembre, notamment dans la région de Lanaudière, les motoneigistes doivent maintenant prendre leur mal en patience. La porte-parole de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Marie-Lou Perrault, rappelle que de 70 à 80 % des 33 000 km de sentiers du réseau étaient ouverts durant la période des fêtes précédentes, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Le pourcentage du réseau ouvert, ouais, en ce moment, là, avec la neige qui est tombée, puis tout ça, à peu près là 50 à 60 %. Mais faut comprendre que les conditions sont pas extraordinaires. Dans 3 semaines, on pourrait se reparler si on continue à avoir de la belle neige comme ça. Et là, mon discours serait probablement différent.
Un groupe de députés fédéraux doit se rendre en Chine en fin de semaine et on veut profiter du voyage pour demander la libération de 2 Canadiens détenus depuis le mois dernier par les autorités chinoises. Ces arrestations de ressortissants canadiens sont perçues comme des mesures de rétorsion par la Chine depuis l'arrestation de la directrice financière de la compagnie Huawei en décembre dernier à Vancouver à la demande des États-Unis. La dirigeante qui a depuis été libérée sous caution en attendant son audience d'extradition. Alors voilà, ça fait pas mal le tour ce matin pour l'actualité.
C'est une histoire assez spéciale, celle de Huawei, d'ailleurs, quand regardes ça. Huawei, hein? Huawei, on l'a tous fait.
Huawei.
Mais blague à part.
Rendu vieille aussi.
Pratiquement. Oui. Mais c'est une histoire assez particulière. Tu sais, il me semble que c'est le genre de comportement qu'on aurait vu, par exemple, des États-Unis. Tu sais, être en conflit avec un autre pays, dire « moi, je prends ta dirigeante d'entreprise, sinon, moi, je prends les tiens aussi ». C'est le genre de conflit qui pourrait s'envenimer entre les deux pays. Déjà, c'est quand même assez spécial, là, mais ça pourrait être encore bien pire.
Oui, je me demande jusqu'à quel point ça pourrait nuire aux relations commerciales entre les deux pays, parce qu'il y a quand même, sans être un grand connaisseur en la matière, il y a quand même pas mal de commerce qui se fait avec la Chine.
Parce que oui, effectivement, surtout qu'avec les États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué de faire des affaires de ce temps-là.
Pourquoi?
Bon, je sais pas, ça a l'air qu'il y a un gars qui est un peu plus fermé d'esprit, disons. On va dire ça comme ça. 7h10 à la météo, donc, la météo, ça va aller mieux. Faible neige intermittente. Un peu, je vais lâcher
ça
mon gaspésien. Faible neige, comprends-tu?
Catherine a un accent du lac Saint-Jean, je crois. Toi, tu voulais te créer un accent.
Catherine va appeler pour te
Saguenay,
dire.
Saguenay. Je connais quelqu'un.
Supprime cet extrait-là des ondes. Ouch. Mets pas ça en ligne, puis assure-toi que dans les archives, ça ne sera pas là.
Bisous, Catherine.
C'est-tu toi qui fais la réalisation lundi?
Je pense pas.
Ah bon, mais tu as déjà des chances de t'en tirer.
Correct. Hein?
Donc, faible neige intermittente pour aujourd'hui. 2 à 4 cm sont attendus. Ça me donne l'impression que c'est pas mal déjà tombé. Maximum à 1 pour aujourd'hui. Ce soir, la nuit prochaine, des nuages majoritairement. Minimum à moins 4 degrés. Demain, samedi, des nuages sur une bonne partie de la journée. Maximum de 1. Dimanche, alternance soleil-nuages. Maximum à moins 6 et à plus long terme. On va y aller dans la rubrique encourageante. Le soleil est prévu pour lundi, maximum à moins 11. C'est moins 1, Centre-Ville, Trois-Rivières, moins 8, la Rive-Sud, et également moins 1, oui, du côté de Shawinigan. C'est parce que ça a rafraîchi au moment où je le disais.
Moins 0, c'est comme le verre est à moitié plein, à moitié vide, moins 0. Tu sais.
Moins 1, c'est 0,5.
C'est ça.
Moins 0.
Bon.
Il y a Julie Masse qui disait c'est zéro, moi je dis moins zéro. Ouais. Et si tu gagnes 0-0, pose-toi de sérieuses questions.
T'as vraiment la vision zéro.
Oh oui! Hey, commence pas avec ça parce que ça pourrait s'étirer rapidement.
En tout cas, on va ralentir sur le sujet.
Tabarnouche. Dans les sports, victoire des Cataractes 4-3 sur le Titan de la Caddie Bathurst. Résume-nous donc le match.
Écoute, l'important, c'est pas le comment, c'est le résultat. Ça n'a pas été chic. Ça a été difficile pour les Cataractes hier soir contre l'équipe dernière au classement général. Disons que les Cataractes sont venus bien près de se tirer dans le pied. Perdaient 3-2 après deux périodes, mais le deuxième trio qui a fait le travail hier, en fait, c'est le trio de Xavier Bourgault, Michael Robidoux et Max-Antoine Melançon qui a fourni tous les buts de l'équipe hier, parce que pour le premier trio, c'était un peu plus brouillon hier soir. Ça arrive, il y a des mauvais matchs comme ça. Mais par contre, Max-Antoine Melançon, première étoile du match avec 4 points. Michael Robidoux qui a marqué ses deux premiers buts dans l'uniforme des Cataractes. Alors, on a un petit peu sauvé la mise. Et déclaration après le match, qui est un peu surprenante, de Michael Robidoux. Et,
parce qu'on avait fait une pas pire à Québec aussi.
Oui, mais ça a été un peu supporté par Daniel Renault par la suite. Robidoux a dit, ben on a l'objectif de commencer les séries avec l'avantage de la patinoire. Et là,
sur qui?
Gens des médias que nous sommes, avons fait comme... Oui, mais c'est parce que le format des séries change cette année dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est toujours les 16 premiers au classement général qui vont participer aux séries, mais pour la première ronde des séries, c'est par conférence. Et dans la conférence de l'Ouest, dont les Cataractes font partie, sont actuellement 8e au classement général. S'ils montaient au 4e rang, auraient l'avantage de la patinoire. Et qu'est-ce qui les distance de la 4e position? C'est 4 victoires. C'est 8 points.
Quand même.
Donc, l'écart n'est pas très grand. Alors, Michael Robidoux a dit, et on ne l'a pas pris au sérieux, soyons honnêtes, a dit on est à 4 victoires d'avoir l'avantage de la glace. On a fait... on a regardé les chiffres, mais il a raison.
Ouais.
C'est ça.
C'est intéressant. Lui, honnêtement, il va mettre du piquant à Shawinigan parce que on l'a vu, on a fait le match à Québec, toi et moi, dans le temps des fêtes contre les Remparts, et il y avait eu une espèce d'altercation avec Patrick Roy. Puis il avait dit, entre autres, les Remparts, c'est mon ex-blonde. Fait que mon ex-blonde, c'est ça. Hein? Puis les Cataractes, c'est ma nouvelle blonde, fait que je m'occupe de ma nouvelle blonde.
Et voilà.
Romantique.
Non, mais exactement, romantique. Le cœur sur la main, mais aussi, je pense qu'il va nous donner beaucoup de bon matériel d'ici la fin de l'année, assurément. Également, victoire par blanchissage 2-0, le Canadien sur les Canucks de Vancouver. D'ailleurs, la star des Canucks, Elias Pettersson, qui a été blessé dans une drôle de séquence avec Jesperi Kotkaniemi. Les deux se disputaient. Pettersson est tombé et le genou a plié du mauvais bord.
Écoute, il y a une photo qui circule sur les médias sociaux. Ça a été pris d'ailleurs par le photographe officiel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Vincent Etier. C'est ça, tu vois la jambe qui n'est pas tournée à deux places, là, pas dans la bonne direction.
Voici la photo que je n'irai pas voir.
Voici la photo caméra 1. Hey les gars, je nous souhaite pas ça.
Ah, oh, pelle.
Je l'ai pas compris.
En tout cas, cette blague-là, Marc-André, ne t'arrive pas à la cheville.
Oh! Lucifer est à McGill.
Je nous souhaite pas ça. Genoux.
Oui, ouais. Non, c'est ça. J'essaie de passer par-dessus. Voudrais-tu m'aider?
C'est ton talon d'Achille, ça.
Ah, là. En tout cas, bref.
S'il vous plaît, faites quelque chose. 376-169, sortez-moi d'ici.
Est-ce qu'on pourrait arrêter de patiner sur ce sujet?
L'UQTR est à McGill demain pour reprendre l'action et plusieurs matchs dans la Ligue de hockey senior 3A. Ce soir, La Tuque à Louisville, Plessisville à Windsor, Table-à-Madeleine à Nicolet, trois matchs disputés à 20h30. Bécancour est à Donnacona à 21h.
Branché sur l'actualité de la Mauricie. Vous écoutez Que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier.
Que la Mauricie se lève.
Les auditeurs qui écrivent par la messagerie Facebook qui disent ouais de l'esprit de bottine ce matin.
Ben oui.
Rendu là, c'est pas mal le magasin de bottine au complet.
L'esprit de patin.
Non, arrête. maintenant, 7h15, c'est donc moins 1 degré centre-ville Trois-Rivières. On va aller parler d'une histoire que j'ai trouvée très inspirante et on en découvre toujours un peu sur les gens. Je pense que notre principal intéressé, le prochain invité, c'est pas un gars nécessairement qui va aimer les tribunes où il s'exprimera sur tout et rien d'une façon, personnelle et tout ça. Mais ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux dans le temps des fêtes, c'est que ce gars-là, je dirais pas cash, mais en tout cas, certainement garde une histoire absolument courageuse. Carl Charest, notre invité ce matin. Salut, Carl.
Salut.
On fera pas semblant, Carl, on se connaît, fait qu'on va se tutoyer si tu le permets.
Oui, on va essayer de lâcher l'esprit de bottine parce que c'est un sujet qui est un peu plus sérieux. Oui,
absolument.
Mais oui, effectivement, on se connaît très bien.
Donc, ça fait quelques années déjà, et pour situer les auditeurs et auditrices, c'est un élément que j'ignorais que tu avais vécu en septembre 2002, 25 septembre pour être bien précis. Tu te trouves à Montréal, tu sors du travail, tu es avec un collègue, et j'ai le goût d'arrêter là puis te laisser raconter la suite.
C'est drôle parce que j'ai décidé d'en parler, en fait. On m'a demandé si je voulais en parler cette année, puis j'ai dit oui.
Okay.
Et ça fait 16 ans que je refuse d'en parler. Tu sais, je fais partie du monde des médias depuis 20 ans. J'ai été dans les médias numériques longtemps. J'ai travaillé à TVA, j'ai travaillé au Journal de Montréal. J'aurais eu énormément d'occasions d'en parler, et j'ai toujours refusé parce que je voyais pas la pertinence d'en parler, et je voulais pas faire...
Mm-hmm.
En fait, il y a 16 ans, je sortais du boulot, j'étais, vous parliez de sport, j'étais à deux pas de l'ancien forum.
Okay.
Et il y a un tunnel qui s'appelle le tunnel du Fort, le tunnel de la rue du Fort, juste en dessous du Centre canadien d'architecture à Montréal. Ce tunnel-là était extrêmement mal éclairé il y a quelques années. Et j'avais entendu des histoires comme quoi le tunnel était dangereux, fallait faire attention, fallait... Mais je me disais, bon, ça arrive aux autres.
Ouais.
C'est une certaine naïveté, même quand t'es à Montréal, quand t'es un petit gars de Trois-Rivières, c'est une naïveté de dire, jamais il va m'arriver quelque chose.
Ouais, puis t'es avec un collègue, t'es pas tout seul là, aussi. Là.
Exact. Donc, on est dans le tunnel, on est en train de marcher, et il y a, puis je vous fais l'histoire courte, il y a trois hommes qui sont approchés de moi, me demandent si j'ai envie de fumer, si je fume. Et si j'ai du feu? Je dis, ben non, j'ai pas de feu, je fume plus, j'ai déjà fumé à l'université, j'ai arrêté. Ils m'ont suivi, j'ai mentionné à mon collègue que je pense qu'on était dans la grande snoute. Il m'a dit, ben voyons donc, tu fais de la paranoïa, on n'a pas de problème, ça va bien aller.
Mm-hmm.
Pour finalement se rendre compte que ben les hommes étaient juste derrière moi, ont laissé mon collègue... Sans surveillance, sans problème. Ils gardaient, mais sans vraiment les toucher.
Ouais.
Et ils ont décidé de s'attaquer à moi. Donc, 5 coups de couteau plus tard à la gorge pour essayer de me calmer parce que moi, je me disais, ben, tu mesures 4 pieds 11 et j'en fais 6 pieds.
Mm.
C'est pas toi qui vas réussir à prendre le dessus sur moi.
Ouais.
Je savais pas qu'il y avait un couteau. Mais il est parti avec mon portefeuille et mes clés. J'ai hurlé de moi mes clés. Et il a réussi à s'enfuir. Et le triste de l'histoire, c'est qu'on l'a jamais retrouvé.
Ouais.
Et c'est ce bout-là qui faisait que j'avais pas envie d'en parler.
Okay.
C'est le bout de dire que mon histoire n'était pas complète, n'était pas finie, parce que j'ai patrouillé avec les policiers, j'ai essayé de chercher, Et à un moment donné, il a fallu que j'en fasse un deuil de cette histoire-là, parce que quand il nous arrive, puis c'est terrible ce qui m'est arrivé, puis ça aurait pu m'arriver dans n'importe quelle ville, quand il nous arrive une histoire comme ça et qu'on ne peut pas faire de excuse-moi l'anglicisme, de closure.
Ouais, boucler la boucle en quelque sorte.
Exact. De boucler la boucle de l'histoire parce qu'on n'est pas capable d'arrêter la personne, on se dit, ben, ça donne quoi? Et comme j'étais journaliste déjà à cette époque-là, je me rappelle avoir écrit à certains collègues en disant, écoute, si jamais tu vois, tu sais, je suis sur mon lit d'hôpital après être opéré le lendemain matin, j'avais demandé aux infirmières les journaux, comme si c'était capable de les amener. J'avais dit, si jamais vous voyez l'histoire, j'aimerais que vous n'en parliez pas. Je voulais vraiment pas que ça se sache. D'un, j'avais peur de représailles.
Ouais.
Parce qu'ils avaient survécu, donc, et c'était des gangs de rue. J'avais peur de représailles des gangs de rue. Et de deux, je me disais, mon Dieu, j'avais honte, en fait. Je me disais, oui, il mesure 4 pieds 11, il a réussi à m'attaquer de la sorte.
À l'intégrité.
Exact, à mon intégrité. Et ça a pris plusieurs années avant d'y arriver. Mais, puis, je reviens aujourd'hui et les témoignages que je reçois, Marc-André, c'est incroyable.
Ah, j'en doute même
des
pas.
Des gens qui m'écrivent de partout en me disant, j'ai vécu la même histoire, merci beaucoup, tu m'aides. Et j'ai tellement hésité à en parler et de recevoir des témoignages et de recevoir de l'amour. T'sais, on est amis sur Facebook, t'as vu tous les commentaires que les gens... La même chose sur mon LinkedIn. Les gens m'écrivent et me racontent leurs histoires en me disant, d'un, comme toi, je savais pas, mais des inconnus qui me disent, tu m'as fait du bien ce matin.
Ouais.
Un homme m'a dit, ma fille va naître dans 3 semaines, je suis enfin apaisé grâce à toi, avant la naissance de ma fille. Puis là, t'es comme, ok, non, les deux bras m'en tombent, je peux pas regretter le geste que j'ai commis, mais j'ai hésité, écoute, j'ai fait cette entrevue-là au beau milieu de l'automne et je me disais, bon, ben, elle va apparaître le week-end d'après, puis ça va être réglé. Elle apparaissait pas, puis littéralement, je l'ai oublié.
Ouais.
Et je fais de la radio ces temps-ci à Montréal sur une chaîne concurrente et ce sont mes collègues, j'étais pas là ce matin-là, sans congé, ce sont mes collègues qui m'ont réveillé en me disant, tu fais la une du Journal de Montréal.
Ouais, puis toi, tu y pensais plus vraiment parce que ça faisait 2 mois que tu avais donné l'entrevue, là.
Je dis, moi, l'entrevue, ça fait 2 mois qu'elle est faite. J'avais dit à la blague, ben, écoutez, ce serait le fun que ça sorte après les fêtes. Tu sais, je fais de la radio, ça me tente pas de devoir me couvrir moi-même à la radio. Donc, après les fêtes, ce serait le fun, tu sais, mais vous le sortez quand vous voulez, j'ai pas de contrôle là-dessus.
Ouais.
Et j'avais pas de contrôle sur la façon de raconter l'histoire non plus.
Mm-hmm.
Et le journaliste David Rindeau l'a raconté de façon tellement belle et tellement simple que j'ai l'air du super-héros quand, dans le fond, j'étais juste une personne qui était au mauvais endroit, au mauvais moment.
Ouais.
J'ai rien fait de grand. Oui, j'ai réussi à m'en sortir. Oui, c'est un exemple de résilience. Je pense que vous allez mettre l'article sur votre site web ou sur la page Facebook.
Absolument.
Oui, c'est un exemple de résilience de m'en être sorti, mais il y a énormément de gens qui s'en sortent. Tu sais, les syndromes post-traumatiques, je connais énormément de gens qui l'ont vécu à tant de niveaux, puis on n'en parle pas. On pense, entre autres, à tous les soldats.
Ouais.
À tous ceux qui sont allés à la guerre.
Mm.
Je parlais à la guerre, là. Je dis, j'étais dans un tunnel à Montréal, au mauvais endroit, au mauvais moment. Pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas la même couverture ou sont pas capables de... Je pense que ça leur ferait du bien. Puis cette chronique-là, c'est un peu pour ça que j'ai accepté d'y participer, parce que j'en avais lu plusieurs, donc c'est la chronique du dimanche dans le magazine J'aime, le Journal de Montréal.
Ouais.
Et je trouvais ça le fun de voir que il racontait des bonnes nouvelles.
Ouais. Des histoires de courage.
Des histoires de courage, des histoires positives. Puis je me disais, bon, ben, OK, si je pourrais faire partie de ça, oui, ça peut être intéressant. Je connais pas le résultat. Puis le résultat aujourd'hui, ben, c'est que je me suis fait arrêter 2-3 fois dans la rue en disant, est-ce que c'est vous? Ouais. Et j'ai dû recevoir une quarantaine de messages de gens qui sont passés par la même situation que je passais, dont l'homme que je vous racontais.
Mm-hmm.
Et c'est pour moi, c'est ça qui est touchant. Ce que j'ai raconté a servi. Ce que j'ai vécu, en fait, sert à quelque chose. Et je pense que c'est enfin ça qui va me permettre de clore définitivement la situation.
Oui, parce que quand je t'écoute parler, j'en ai encore les frissons. Puis quand je suis tombé sur l'article dans le Journal de Montréal, je me disais, tu sais, puis t'es plein d'humilité, puis c'était tout à ton honneur que de dire t'es pas un super-héros. Mais quand je regarde ça, puis on en discutait un peu plus tôt dans l'émission en disant, hey, pour se relever de ça quand même, là, ça prend un moyen courage. Puis t'as parlé de résilience, c'est vrai. Mais justement, tu sais, comment tu prends ça? Mettons, là, à ce moment-là, tu as plus ou moins 25 ans. Comment tu prends ça puis tu dis, bon, ben OK, post-mortem, il m'est arrivé ça. Maintenant, je me relève, puis comment je le fais?
Ah, tu le prends pas. Tu le prends pas, tu vires complètement dingue.
Ouais.
Je travaillais de nuit. Tu sais, mon boulot était à deux pas de où est-ce que je m'étais fait agresser. Donc, je remets le jour, puis j'allais travailler la nuit parce qu'il n'y avait pas de monde. Puis je la nommerai pas, mais j'ai une collègue qui est allée en burn-out à essayer de me gérer, et je l'aime d'amour et je la respecte, puis je m'en veux d'y avoir fait de la peine. J'ai laissé ma copine du temps, puis j'ai fait de la peine, ça n'a pas de bon sens, puis je m'en veux d'y avoir fait de la peine. Tu sais, j'ai blessé énormément de gens dans cette époque-là parce que j'étais pas moi-même, puis j'étais pas capable d'être moi-même, j'avais pas le contrôle. Et à un moment donné, tu te dis, OK, bon, OK, fine, j'ai pas le contrôle sur moi, je fais quoi, là? Je reprends le contrôle? Oui. C'est la seule chose que je peux faire.
Ouais.
La seule chose que je peux faire, c'est reprendre le sourire, reprendre le contrôle et me redonner envie de fonctionner. Je marchais dans les rues et je regardais derrière tout le temps. J'allais au cinéma, il y avait une scène avec un couteau, entre autres à cette époque-là, est sorti le film Das Experiment, le film allemand sur la célèbre histoire psychologique.
Ouais.
Écoute, je suis sorti au beau milieu du film dans une crise de panique que comme j'ai plus jamais vécu. Fait que, tu sais, j'ai eu des moments où je me disais, mon Dieu, je m'en sortirai pas. J'ai eu des pensées noires. Puis je me disais, et mon bon vieux père, qui est quand même assez connu en Mauricie, m'a toujours dit quand j'étais petit, les pelules, c'est pour les autres. T'es fort, t'es un tough. En misère qu'on forme les champions.
OK.
Je me disais, bon, c'est ça ma misère à moi, puis je vais passer par-dessus. Donc, j'ai pris du temps à consulter et j'ai pris du temps à prendre la médication et ça a eu des effets pervers négatifs. Maintenant, 16, 17 ans plus tard, ça en est un autre. C'est une autre histoire parce que je le vis de façon, tu sais, avec un recul, puis je me suis relevé de ça. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est pas tout le monde qui s'en relève comme je m'en suis relevé.
Ouais. Carl, écoute, tu iras jusqu'où tu veux aller dans la réponse à la question suivante, mais c'est quoi l'élément déclencheur qui dit un peu, ah ben là, c'est assez, là, c'est correct, là, tu sais, faut que ça arrête, là, l'espèce de, je vais l'appeler comme ça respectueusement, mais l'espèce de dérape qui s'ensuit.
En fait, c'est de se lever un matin avec sa médication et de dire, OK, là, je suis rendu avec une béquille, je suis rendu avec un pas de vie. Je sortais plus. Et j'ai fait, non, regarde. Puis, tu sais, c'est en étape, ça, c'est la première étape. Je te dirais que la dernière étape est arrivée il y a peut-être 2-3 ans. Mais la première étape, ça a été de dire, OK, non, là, on abandonne, on arrête les béquilles, on arrête de s'apitoyer sur ce qui est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Tu sais quoi? Tu peux pas rien faire.
Ouais.
Et la seule chose que tu peux te dire, c'est... tu sais, il y a une expression qui dit que tu as plus de chance de gagner à l'auto que de te faire frapper par la foudre deux fois.
Ouais.
Ben, je veux dire, moi, c'est ma foudre à moi.
Mm-hmm.
Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ma façon à moi de vivre cette expression-là. Fait que ça peut pas me réarriver. C'est sûr que j'ai encore une fois de temps en temps avec certains groupes. Tu sais, quand je vois des rassemblements dans des endroits ou certains groupes ou certains types de personnes, ou quand je passe près de la station de métro où c'est arrivé, j'ai toujours une pincée. Mais tu vois, cette année, je suis allé à cette station de métro-là.
Okay.
J'étais à deux pas du tunnel.
Oui.
Et ça allait. J'étais avec mon fils et ça allait. J'ai réussi à surmonter cette épreuve-là ou cet échec-là, parce que je l'ai vu longtemps comme un échec, puis à m'en sortir. Mais c'est vraiment de me lever un matin et faire comme, OK, t'as deux choix, là. Tu continues à ne plus vivre correctement puis à avoir peur de fonctionner.
Ouais.
Ou t'as une vie à vivre, puis t'en profites, Patrice.
Ouais, exactement. Est-ce que quelque part dans le processus, tu te dis, ben, c'est moi dans ce cas-ci, c'est un peu au hasard, j'ai pigé le mauvais numéro, puis c'est ça. Est-ce qu'il y a un côté plus difficile dû au fait que c'est un peu ça, dans le fond?
Ben, le plus difficile, c'est de ne pas avoir retrouvé mes agresseurs, mes assaillants.
Ouais.
Parce qu'en fait, je les avais retrouvés.
Okay.
Je les avais pointés, mais on te demande, lorsque tu rencontres, lorsqu'arrive quelque chose comme ça, le processus est le même partout, que ce soit à Trois-Rivières, ou que ce soit à Montréal ou à New York, peu importe.
Mm-hmm.
On te met un livre des suspects potentiels.
Okay.
Donc, il y avait peut-être entre quoi, 450 et 600 personnes.
Wow, quand même.
Et il fallait que je pige mes trois lascars là-dedans. J'ai pigé les lascars. Quand on m'a demandé avec quel pourcentage j'étais sûr de... J'ai pas été capable de dire 100%.
Mm.
J'ai pas été capable, même si j'ai le sens d'observation, journaliste, etc. Je suis pas capable de dire à 100%. Et il y a deux hommes qui sont passés entre moi et mon collègue de travail et qui ont vu la scène. Un avocat et un notaire,
okay,
selon ce que les policiers m'ont dit.
Okay.
Et ces deux hommes-là ont fait un faux témoignage.
Ben voyons.
Pour ne pas avoir à témoigner en cour contre des membres de gang de rue.
Tu me niaises? Un avocat puis un notaire qui font un faux... Ben voyons oui. Donc.
Et donc, en faisant un faux témoignage puis en décrivant les individus d'une autre façon, ma description des individus et celle de mon collègue qui, lui, était sous le choc parce que lui a vu la scène.
Ouais.
Moi, je l'ai vécu, lui, il l'a vu. Ben, les trois versions n'étaient pas pareilles. Donc, les policiers ont dit, bon, on peut pas les arrêter. Fait que j'ai poursuivi, on a fait de la voiture patrouille, on a fait de l'enquête, j'ai fait 3-4 jours avec eux, puis à un moment donné, j'ai dit, ben, en fait, on en a retrouvé un qui a réussi à filer, puis à un moment donné, j'ai fait, bon, on arrête ça là, tu sais, j'en ai plus besoin. Fait que c'est vraiment par étapes, puis je me suis levé un matin, puis j'ai dit, OK, là, j'arrête de vivre, je profite de la vie, j'ai une vie, j'ai le goût, j'ai des objectifs, j'ai des trucs que je me disais à 10-12 ans que j'allais atteindre avant la trentaine ou avant la quarantaine, ben, si je continue comme ça, je les atteindrai jamais, puis je ferai jamais rien de ma vie, tu sais.
Ouais. Il y a l'événement et tous les sentiments qui y sont inhérents. Maintenant, il y a l'espèce d'aspect physique également parce que 5 coups de couteau dans la gorge, ça a voulu dire que tu as dû subir une opération donc qui visait à reconstruire ta trachée. Comment tu l'as vécu, ça?
En fait, ça, je l'ai vécu plus à la blague qu'au sérieux parce que je mentionnais au médecin, à l'anesthésiste, je me rappelle la blague. Je m'en fais d'anesthésie, j'ai dit, j'aimerais ça que là, tu abaisses ma voix encore plus d'une octave. J'ai déjà une voix grave.
Mm.
Là, j'avais le goût d'avoir la voix Barry White. Et c'est la première, on s'entend, je suis sur le lit d'hôpital, j'ai saigné énormément. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est de me dire, mon Dieu, j'aimerais ça avoir une voix encore plus grave. Je serais encore meilleur à faire de la radio.
c'est ironique quand même.
Quand même. J'ai fait une blague à l'anesthésiste, mais pour moi, je ne savais pas ça.
Mm-hmm.
Moi, je l'ai su par après, et ça fait encore partie encore plus du mystère. Le médecin qui m'a opéré n'était pas un médecin de l'hôpital.
Okay.
Donc, encore aujourd'hui, mon dossier est vierge.
Mm.
Ils ne savent pas ce qu'il a fait. Ils sont pas au courant de ce qui s'est passé. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement.
Ben c'est bien spécial.
Il a raconté ce qu'il avait fait à ma copine du moment.
Ouais.
Et la dite dame ne parlait pas anglais. Le médecin est anglophone.
Hein?
Donc, c'est à peu près comme si elle avait parlé chinois. Fait, elle pensait à l'époque qu'il avait dit cracher.
Mm-hmm.
Et donc, je me suis rallié à ça en disant ben c'est probablement ce qui m'est arrivé. Mais encore aujourd'hui, je sais pas exactement, précisément, ce qui s'est passé, puis ça ajoute une espèce de sens mythique à l'histoire,
ouais,
en me disant, mais Christy, il m'est arrivé une histoire surréelle, Et il y a plein de mini ou micros événements surréels dans l'histoire surréelle, dont le fait de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait exactement comme opération.
Ouais. Mais finalement, l'as-tu eu ta voix plus grave ou?
Non, ça a l'air que j'ai toujours eu ce voix-là. J'ai la voix du père avec un filtre dessus.
Ouais.
Mais non, je pense que je suis un peu de couture. J'ai été excessivement chanceux parce que un des coups de couteau, et ça, ben, tu sais, j'en ai eu la plaie pour preuve. Un des coups de couteau était à quelques millimètres de la carotide.
Mm.
Donc, s'il avait piqué différemment, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui pour t'en parler. J'aurais eu des conséquences médicales beaucoup plus graves parce que j'ai été 3 jours à l'hôpital, puis j'ai été 3 semaines, j'aurais dû prendre beaucoup plus de temps que ça. Mm. J'ai été 3 semaines arrêté au travail. Mais tu sais, quand tu as 25 ans, t'es un jeune employé.
Ouais, rien ne t'arrête.
Non, mais oui, rien ne t'arrête, mais t'as peur à ton boulot aussi.
Mmh, ouais, c'est vrai.
Puis, mon Dieu, si j'arrête, on va me remplacer.
Mmh.
On va constater qu'on n'a pas besoin de moi. Et on est à l'époque où les boulots étaient pas très réguliers, étaient pas, tu sais, c'était difficile de se trouver du boulot à cette époque-là. Fait que moi, je voulais pas perdre mon boulot. Je suis revenu au travail beaucoup trop rapidement. Parce que j'avais la peur de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver si on me remplace puis je perds mon travail en plus d'avoir perdu ma dignité, tu sais.
Ouais, moi, je comprends. Quand tu regardes ça aujourd'hui, puis je le vois passer sur les réseaux sociaux parce qu'on se suit mutuellement, t'as un garçon de 8 ans, les photos puis la relation que vous avez semblent vraiment exceptionnelles. Comment t'abordes la vie avec le petit bout d'homme qui est avec toi?
Tu l'abordes à 100%, puis tu te dis, mon Dieu, j'ai bien fait de le savourer. Tu sais, j'ai eu d'autres épreuves médicalement. J'ai encore des suivis depuis un an. Et mon fils, Yuri, fait partie de ce qui me fait m'accrocher, puis qui me fait dire, ben regarde, oui, j'ai eu de la résilience une fois, puis ça a l'air qu'il y a quelqu'un quelque part, mettez votre symbole spirituel que vous avez en... Dans l'espace que je laisse présentement.
Mm-hmm.
Il y a quelqu'un quelque part qui a décidé qu'il fallait que j'en donne encore plus de résilience. Et je m'encourage en me disant, ben, je vais essayer de donner le meilleur possible. Puis je vais essayer de donner le meilleur exemple de père possible parce que j'ai envie de lui donner ça, parce qu'il le mérite. Puis parce que je me dis, ben, si j'ai réussi à passer au travers autant d'expériences puis autant de trucs rocambolesques et inimaginables, ben ça mérite d'être vécu à fond puis de lui donner la plus belle vie possible en lui faisant comprendre que il arrive des accidents ou des mésaventures puis que ça peut arriver à n'importe qui. Et l'ironie du sort, c'est que sa mère, mon ex-conjointe, a vécu aussi une expérience traumatisante, elle avec un chien à 8 ans, puis bon, elle a fait la couverture du Nouvelliste à cette époque-là.
Okay.
Donc, Yuri a comme une espèce de compréhension de la vie que, ben, il peut nous arriver des trucs, mais quand ça nous arrive, on se relève et regardez comment on peut fonctionner malgré ce qui nous arrive. Donc, je pense qu'on va lui donner une compréhension de la vie qui va être différente, puis une compréhension de l'importance de la résilience qui va être différente, du moins. En tout cas, j'espère que c'est ce qu'on va réussir.
Mmh. Et ma dernière question sera un peu quétaine, façon de parler, mais j'imagine que tu savoures la vie autrement, hein?
Pas toujours. Pas tous les jours. Il y a des jours où j'oublie littéralement que ça m'est arrivé. Mais oui, je le vis autrement. Oui, je le vis à fond. Oui, je vis intensément. Les gens qui me connaissent ou les gens qui vont réécouter ou qui m'entendent savent que j'ai la pédale au plancher à peu près tout le temps.
Mm-hmm.
J'ai jamais dit non à des aventures. On en a déjà parlé, toi et moi, en ondes, lorsqu'on est allé en France, moi et mon collègue Mathieu,
oui,
faire les présidentielles françaises. Fait que lorsqu'il y a un défi, lorsqu'il y a quelque chose qui m'est présenté, je dis jamais non parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas une deuxième chance de vie.
Ouais.
En fait, je l'ai eu, ma deuxième chance de vie.
Mm-hmm.
Fait que j'en aurais pas une troisième, là. Puis on dit jamais 203, là, j'y crois pas, tu sais. Fait que j'ai eu une deuxième chance de redonner un coup plus intense à ma vie, d'explorer, de faire des trucs fascinants. Ben, j'essaie de le faire. C'est sûr que, comme n'importe qui, il y a des matins, je me lève où je suis pas l'ombre de ce que je peux prétendre ou je peux dire dans une entrevue radio ou dans les journaux.
Ouais.
Mais, somme toute, ben, s'il y a un défi, s'il y a quelque chose de complètement débile auquel j'ai pas pensé qu'il m'était possible de faire, tu m'entendras jamais dire non. Et je vais essayer de le provoquer le plus possible parce que je sais que j'ai pas une deuxième chance d'avoir une vie fun puis de monter dans la vie comme on m'a offert il y a 17 ans de ça.
Ouais. Carl Charest, écoute, je ne saurais comment te remercier d'avoir partagé ça avec nous autres. Vraiment, puis je le dis sincèrement, là, c'est très touchant. Je te trouve hyper courageux. Puis, tu sais, à quelque part là-dedans, bravo d'avoir su saisir le moment de dire, ben, je me relève, je poursuis, puis ensuite de donner l'exemple que tu donnes à ton garçon et à tes proches, entre autres. Écoute, je te souhaite seulement le meilleur et au plaisir de se côtoyer bientôt.
Ça me fait plaisir, puis on se voit bientôt, puis n'hésitez jamais si on peut parler d'autre chose que de cette agression-là.
Oui, absolument. Ben, Carl, merci encore une fois, puis effectivement, on place le lien du Journal de Montréal sur notre page Facebook du 106.9 Mauricie. Bonne journée à toi.
Merci, là, bye-bye.
Bye-bye. Carl Charest, donc, imaginez, je l'écoutais, puis j'ai encore les frissons, tabarnouche. Victime d'une agression en 2002. Trois gars qui se pointent dans sa direction et la direction de son collègue, alors que les deux hommes, Carl et son collègue, sortent du travail à Montréal, se font agresser. Carl est poignardé au cou 5 fois. Aujourd'hui, 41 ans, donc 16-17 ans plus tard, il en parle. Une histoire vraiment... Une maudite bonne histoire, finalement. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est un peu cru, mais c'est ça l'affaire. Une maudite bonne histoire. 7h42. Un bel exemple aussi, c'est... En quelque part, c'est bouleversant, mais il me semble que ça nous craque un peu. Tu sais que ça nous dit, mais tabarnouche. Ouais, on va savourer cette vie-là. Il n'y en a rien qu'une, puis on va la prendre de la bonne façon.